Radio Okapi. Okapi. Okapi Service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler aujourd'hui de l'hygiène menstruelle. Comment avoir une bonne hygiène menstruelle? On en parle dans cette émission de la vie au quotidien avec Madame Joséphine Ngalula, présidente du Forum de la femme ménagère. Madame Joséphine, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Nous aurons également docteur Ghislain Moukouna de Catholic Relief Service. Il sera de la partie pour nous en dire un peu plus. Des questions et préoccupations sur l'hygiène menstruelle, appelez au 081 890 63 94. Revendications sur la taxe RAM, la taxe sur les téléphones mobiles. Quelles sont les voies de recours? On en parle dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Polydor Bansunga sur la mise en onde, Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission qui présente jeudi Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h, et le samedi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène menstruelle. Chaque femme et fille a ses règles en moyenne tous les 28 jours pendant environ 5 jours. D'après nos sources, pourtant, la menstruation est entourée de silences, de mythes et des tabous et fait même l'objet d'une stigmatisation. De nombreuses jeunes filles font face à de nombreux défis pour maintenir une bonne hygiène menstruelle. Elles n'ont pas des serviettes hygiéniques et ne disposent pas des sanitaires convenables pour se changer. Conséquence, elles s'absentent de l'école et se voient privées de certains droits humains. Il y a eu même une étude réalisée en 2017 par Catholic Relief qui a révélé, Catholic Relief Service, qui a révélé que une fille sur 10 s'absente de l'école, ne va pas à l'école pendant les règles, et c'est là dans la province de l'Équateur, voilà. Et ce qui transforme un simple fait biologique en un obstacle à l'égalité des sexes. Que faire pour permettre aux femmes et aux filles de prendre soin d'elles pendant les règles et poursuivre normalement leurs activités quotidiennes? On en parle avec Madame Joséphine Ngalula. Madame Joséphine, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes présidente du Forum de la femme ménagère. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'hygiène menstruelle pose problème et on n'en parle presque pas dans nos familles? C'est toujours un sujet tabou.
Oui, je pense que c'est un problème d'éducation aussi, hein. L'hygiène menstruelle, ça fait partie des droits à la santé, des reproductions. Et c'est un sujet qui ne devrait même pas être un sujet tabou dans nos familles. Et ça devrait être vraiment un sujet d'éducation pour expliquer à la jeune fille, même avant qu'elle ne soit à l'âge d'avoir des règles, mais commencer déjà la préparation. Et parce que cette étape d'hygiène mensuelle doit être très bien gérée pour que les différentes infections qui peuvent survenir dans, pendant la, la, la mauvaise gestion, pendant l'utilisation des serviettes hygiéniques qui ne sont pas appropriées ou quoi, ne puissent pas déranger la santé de la jeune fille. Voilà un peu, donc, c'est un problème très complexe qui est entouré de beaucoup de tabous. Alors, je ne sais pas, ce sont ça dépend des familles, comment les familles partagent sur la question de la gestion de l'hygiène menstruelle.
Alors, en famille, comment est-ce que les parents, ou on peut déjà préparer les jeunes filles par rapport à cela? Comment bien les préparer par rapport à la survenue des règles?
Quand la jeune fille commence déjà à faire apparaître des signes, il y a l'apparition, par exemple, des poils, il y a l'apparition des seins et tout, et vous voyez que la petite fille commence déjà à se métamorphoser, les parents doivent commencer à partager avec cet enfant sur sa situation future concernant l'apparition des règles. Et c'est comme ça que les parents préviennent et puis montrent à la fille, voilà, que dès que ce temps-là arrivera, voilà, tu peux utiliser, il y a des serviettes qui existent, qui sont des serviettes appropriées, qui peuvent te permettre de te maintenir avec beaucoup de propriété et ne pas salir tes habits. Et bon, voilà, c'est comme ça que des choses devraient se passer. Mais dans nos différentes familles, souvent, c'est un sujet tabou. Les parents ne partagent pas trop sexualité avec les enfants. C'est ça qui est dommage, au fait.
Et la conséquence, il semble qu'à l'école, il y a beaucoup de jeunes filles qui voient le sang et pensent qu'elle est blessée. Et puis les autres se moquent d'elle et puis l'enfant est traumatisé.
Justement, c'est ça les manques de communication entre parents et petites filles à la maison. C'est très mauvais et moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir organisé cette émission. C'est pour justement sensibiliser les parents à partager avec leurs petites filles. Moi par exemple, bon, j'ai plus de petites filles à la maison, mais j'ai des petites filles, des enfants de mes enfants. J'ai commencé déjà à faire ce travail-là, j'échange avec et j'incite mes filles aussi à parler avec leurs enfants sur cette question de la gestion de l'hygiène menstruelle. C'est très, très important parce que la mauvaise gestion peut occasionner beaucoup de maladies, voire même la stérilité de la petite fille dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle a été, elle a eu des infections pendant la mauvaise gestion ou bien quand il y a des règles douloureuses et quand ce n'est pas bien soigné, la fille peut développer d'autres maladies qui à l'âge adulte peut compliquer vraiment même sa maternité, etc. C'est comme ça qu'on doit vraiment commencer à sensibiliser les parents, papa, maman, à parler de leur fille de l'hygiène menstruelle. C'est normal, c'est naturel. Il n'y a pas de tabou en ça pour expliquer à la jeune fille comment prendre des précautions pour éviter qu'il y ait des problèmes de santé très, très difficiles à gérer dans l'avenir.
Bon, généralement, les papas ne se sentent pas à l'aise de parler de ces choses-là à leurs filles.
Ben, moi, j'appelle aux parents, aux papas de se sentir à l'aise et de parler avec leurs jeunes filles. Ce n'est pas un problème tabou, il faut parler. Nous, nos parents de l'époque, moi, je prends mon exemple, moi, avec mon père, on parlait de tout ça, hein. Peut-être, je sais pas parce qu'il était dans la catégorie des évolués à l'époque des indépendances et tout, mais, en tout cas, nous, on a eu à parler avec ça, avec papa. Hein. Je ne voyais pas en quoi ça gênait. C'est une situation qui est liée à la nature humaine de la petite fille. Donc, on ne peut pas voir en ça des barrières pour ne pas en parler. Voilà.
On va accueillir Dr Ghislain Mukuna de Catholic Relief Service. Bonjour, Dr Ghislain.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Alors, l'UNICEF, au travers de son programme YouReport, a réalisé dernièrement un sondage sur l'hygiène menstruelle. Et il y a eu plusieurs questions. Les jeunes ont répondu. Par exemple, à la question « As-tu entendu parler des règles avant de les avoir ?» 62% des jeunes ont dit oui et 38% non. À qui poses-tu tes questions sur ton cycle menstruel? 39% ont dit à personne, 26% aux amis, 18% père et mère, 5% aux membres de la famille et 12% aux enseignants et encadreurs. Quel matériel utilises-tu pendant tes règles? 19% des réponses sont les bandes hygiéniques lavables. 45% des réponses, ils utilisent les bandes hygiéniques à usage unique. 3% la coupe menstruelle, 2% les tampons et 31% des morceaux des tissus. Alors, comment te débarrasses-tu des matériaux utilisés? 31% j'ai brûle, 8% j'enterre, 8% je jette à la poubelle et 53% je jette dans la toilette. Quelles difficultés as-tu pendant tes règles? 6% pas d'eau, 7% pas des matériaux, 5% pas des toilettes pour les filles, 44% ont parlé des douleurs, 6% acheter des matériaux discrètement et 31% manque d'argent. Voilà. Docteur, comment réagissez-vous par rapport à aux résultats de ces sondages YouRepot de l'UNICEF?
À première vue, ces résultats ne sont pas très différents des recherches que CRS a réalisées en 2016 dans la province de l'Équateur. Mmh. Et ils ne sont pas non plus différents des résultats que CRS a réalisés en 2018 en partenariat avec l'UNICEF. Ils confirment ces résultats. Il y a des toutes petites différences plutôt, mais pas très significatives. À la première question, par exemple, qui demande si les filles avaient entendu parler des règles avant que leur première règle n'arrive. Mmh. Lorsque nous avions réalisé l'étude avec l'UNICEF, on s'était rendu compte qu'à Kinshasa, par exemple, 78% des filles n'avaient pas encore entendu parler des règles avant de connaître leur première règle. Et dans le Haut-Katanga, 90,7% n'avaient jamais entendu parler des règles. Et dans le Nord-Kivu, le chiffre était de 74,3%. Qui n'avaient jamais entendu parler des règles, alors que nos recherches s'adressaient aux filles de 10 à 17 ans, qui étaient supposées être déjà préparées à recevoir ou à voir arriver leurs premières règles, mais on s'est rendu compte qu'elles n'avaient aucune information sur les règles et elles ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Quand vous leur demandez, ou plutôt quand le sondage a demandé à qui pose-t-elle des questions sur les menstruations, ce qui frappe le plus, c'est que 39% ne demandent rien à personne. Ça montre que c'est une question qui reste encore tabou dans nos milieux, alors que nous devons sortir du tabou. Après 39%, nous voyons 26% qui s'adressent à leurs amis, qui sont des enfants de leur âge, qui n'ont peut-être pas la bonne information et qui, elles-mêmes, n'ont rien demandé à des adultes qui pourraient les orienter. Il n'y a que 18% qui demandent à leurs parents et 12% seulement s'adressent à leurs encadreurs et enseignants. Mmh. Ça reste très faible. Mais dans les études que nous avions faites, nous nous adressions aussi aux connaissances des parents parce que les tuteurs et les tutrices des filles avaient participé aussi à cette recherche. On se rendait compte très souvent qu'aussi bien les parents que les enseignants n'avaient pas les bonnes connaissances sur l'hygiène menstruelle. Ça voulait dire que même si ces filles étaient adressées aux parents, elles auraient de l'information qui les protégerait certainement, qui les orienterait très bien, mais ces parents ont aussi besoin d'avoir certaines orientations et certaines informations qui sont correctes et exactes sur l'hygiène menstruelle. Le troisième aspect qu'avait abordé le sondage parlait du matériel qu'elles utilisent pendant les règles. La majorité dans les villes utilisent les bandes hygiéniques comme on l'a vu. Mais dès qu'on va dans les milieux ruraux et dans les contextes d'urgence, les filles utilisent généralement des morceaux d'étoffe.
Mais là, on a 31%, c'est quand même important.
31% parce que le sondage s'est adressé au Nord Kivu, certainement à des filles qui avaient le téléphone. Donc à des filles qui sont d'un milieu assez urbain. Mmh. Si nous allons dans les milieux ruraux, les chiffres de ceux qui utilisent des morceaux de tissu montent. Ils vont jusqu'à 70%. Je ne dis pas que les morceaux de tissu sont une mauvaise pratique. Il faut bien qu'on l'entende. Un bon absorbant, c'est celui qui a une bonne capacité d'absorption, qui ne permet pas qu'il y ait qui empêche des fuites. Un absorbant qui permet que la personne qui l'utilise soit à l'aise. Un absorbant qu'on peut garder propre et très hygiénique. Garder propre ne veut pas dire bande hygiénique qui est dans le commerce. Ça peut vouloir dire aussi un absorbant réutilisable, mais qui est lavable, qu'on peut bien laver, bien sécher, bien repasser. Il y a des absorbants à usage multiple qui sont encore mieux que des absorbants à usage unique quand ils sont bien traités et quand ils répondent aux bonnes caractéristiques. C'est dire que si les filles utilisent des morceaux d'étoffe, ce n'est pas un problème si ces morceaux d'étoffe répondent aux caractéristiques d'un bon absorbant. C'est un peu la réaction que je peux donner à cet aspect qu'a abordé le sondage. Mmh. L'aspect suivant, c'est comment elles se débarrassent de leurs matériaux utilisés.
Voilà, avant d'en arriver là, docteur Ghislain, un instant, toujours par rapport au matériel utilisé. Madame Joséphine, vous êtes en ligne. Alors, par rapport aux matériaux utilisés, il y a des jeunes filles qui utilisent des morceaux de tissu parce qu'elles ne peuvent pas s'acheter des serviettes ou les bandes hygiéniques qui sont vendues dans les pharmacies et un peu partout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, l'utilisation des serviettes hygiéniques est plus recommandée parce que c'est bien élaboré par rapport à la santé, par rapport à l'hygiène et pour le bien-être. Bon, cependant, ça coûte cher et souvent, les jeunes filles n'ont pas la possibilité d'avoir de l'argent ou bien peut-être les parents n'ont pas la possibilité d'avoir de l'argent pour acheter des serviettes hygiéniques dans des pharmacies, etc.
Oui.
Alors, si il faut utiliser les tissus, mais là, ça demande encore beaucoup plus d'hygiène, c'est-à-dire quoi? Être capable de nettoyer ces serviettes, d'exposer au soleil, parce que les contacts avec les rayons solaires permet de tuer des microbes et puis les repasser et les remettre sur les corps, les utiliser lors de l'apparition de règles, en fait.
Mmh.
Voilà un peu. L'idéal, c'est d'acheter les serviettes élaborées déjà hygiéniquement par les pharmacies. Mais en cas de force majeure, on ne peut pas, laisser les enfants salir les habits, etc. Il faut absolument que les filles qui n'ont pas le moyen d'avoir les serviettes qu'on vende dans des pharmacies peuvent utiliser des tissus, mais que ces tissus soient bien entretenus, en fait. Voilà un peu ce que je peux recommander aux jeunes filles.
Mmh. On va accueillir un auditeur, Bindou Maombi, depuis Goma. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui sont branchés à pareil moment.
Quelle est votre question, Bindou Maombi?
Ok, par rapport à la thématique du jour, vraiment c'est très intéressant. Ma préoccupation est que le sujet de ce qui concerne les souhaits menstruels, le sujet est tellement un tabou dans nos familles, donc il est tellement très difficile pour les parents d'en parler à ses enfants. C'est pour cette raison que je vais proposer à notre ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique d'établir un cours qui sera dispensé dans nos écoles, qui en parlera davantage et facilitera les enfants d'en être plus informés davantage. La question que je vais poser à notre invité du jour est celui...
Désolé, il n'est plus en ligne, mais il demande qu'on puisse instituer un cours dans le programme scolaire où on parle aux jeunes filles, on les sensibilise par rapport à cette question. Docteur Ghislain, vous avez la parole.
Oui, je vais revenir un tout petit peu sur l'utilisation des serviettes hygiéniques et sur le cours que l'auditeur a proposé. Par rapport aux serviettes hygiéniques, j'insiste sur le fait que les caractéristiques d'un bon absorbant doivent être ceux qui nous guident. Aujourd'hui, on parle de la coupe menstruelle qui vient de plus en plus. Je suis content de voir qu'à Goma, il y a déjà 3% des filles qui utilisent les coupes menstruelles.
Et docteur, c'est quoi une coupe menstruelle?
Une coupe menstruelle, c'est une coupe, une sorte de collecteur en silicone qui est très souple, qu'une dame ou une fille qui a ses règles peut introduire dans ses voies génitales et qui collecte le sang. Elle peut garder la coupe jusqu'à ce qu'elle soit pleine, elle peut la déverser et la rincer et la remettre en place. Elle ne demande pas qu'on achète chaque mois, et ne demande pas qu'on soit tout le temps gêné par le fait qu'on a un absorbant dans son sous-vêtement. Et l'utilisation de coupes menstruelles est de plus en plus promue. Mais pour revenir au bandes hygiéniques, le docteur a raison de dire que c'est idéal. Oui, c'est un idéal pour ceux qui ont les moyens, c'est un idéal dans les pays où nous pouvons vérifier la qualité des bandes hygiéniques. Quand on n'a pas un service de contrôle qui puisse bien vérifier la qualité des bandes hygiéniques, ça peut devenir un problème. Je vous donne juste un exemple. Beaucoup de fabricants de bandes hygiéniques ont besoin que leurs bandes soient bien blanches. Ils ramassent des papiers n'importe où et constituent des bandes hygiéniques. Et pour rendre ces papiers tout blancs, ils utilisent de la dioxine. Est-ce qu'elle est recommandable pour la santé? Il faut que l'OCC nous le dise. Donc les bandes hygiéniques, il faut en parler et il faut toujours orienter les consommateurs vers les caractéristiques d'un bon absorbant, les caractéristiques d'une bande hygiénique.
Comment détecter si les serviettes sont des bonnes qualités ou pas?
Je vous ai donné au début quelques petites caractéristiques. Je vais rajouter, je reprends celles que j'ai données avant. Un bon absorbant, c'est celui qui évite les fuites. C'est celui qui peut être gardé hygiénique, gardé propre. Il ne gêne pas quand on le porte et on peut l'éliminer correctement. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques qu'on peut ajouter, mais c'est déjà là un point de départ sur lequel on peut se baser pour dire si une bande hygiénique est bonne. Pour répondre au cours que l'auditeur a évoqué, nous sommes avec l'UNICEF en train de mener un programme pilote d'intégration de la gestion de l'hygiène menstruelle dans les programmes scolaires avec le ministère de l'EPST. Sur ce programme, il y a 60 écoles pilotes réparties dans 3 provinces, Kinshasa, Kasaï Oriental et Sud Kivu, 20 dans chaque province, et le ministère est avec nous. On a déjà édité les manuels, les enseignants de ces 20 et ces 60 écoles sont formés. C'est pour répondre à cette préoccupation qui fait que l'hygiène menstruelle soit un problème pour les élèves et pour les filles qui ne sont pas à l'école et qui fait qu'il est important qu'elles soient informées avant que les premières règles n'arrivent pour éviter que ces premières règles ne soient un choc. Ce programme est en phase pilote et l'idéal serait que le ministère arrive à le faire passer à l'échelle et qu'il entre dans toutes les écoles de Kinshasa. Il s'adresse aux filles de 3e primaire, de 4e primaire, de 5e et de 6e primaire.
Voilà. Bien, Madame Joséphine, vous avez suivi, il y a parfois des bandes hygiéniques qui sont pas appropriées, qui sont pas de bonne qualité sur le marché. Alors, par rapport à cette présence des bandes hygiéniques de mauvaise qualité, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes filles qui vous suivent en ce moment? Ou aux femmes qui vous suivent en ce moment?
En fait, nous avons un sérieux problème par rapport à la certification de la qualité des bandes hygiéniques. Et s'il faut maintenant demander aux jeunes filles de procéder à cet exercice, ça sera très, très difficile. Très difficile pourquoi? Ce sera difficile pourquoi? Parce que elles n'ont pas, disons, les moyens appropriés pour évaluer la qualité, en fait, la qualité de ces bandes-là. C'est ainsi que nous pouvons toutefois, demander à celles-là qui ont la possibilité de savoir distinguer avec leur médecin conseil ou quoi, que cette bande est de bonne qualité ou pas, de bien, elles peuvent, ces filles-là, ou bien les parents qui ont la possibilité, peuvent aider à ce que les filles s'approprient des bandes hygiéniques de qualité. Mais là, pour le moment, avec tout ce que nous avons comme difficulté, c'est vraiment difficile à résoudre pour pouvoir certifier que c'est sur des bandes de qualité ou de mauvaise qualité, etc. Mais pour nous, je crois, l'essentiel, c'est d'aider la jeune fille à bien se protéger pendant sa menstruation et d'éviter de s'infecter, en fait, par mauvais usage des supports, des protections qui ne va pas l'aider qui va pas l'aider à garder sa santé saine. Et c'est comme ça que je pense, si les bandes hygiéniques qui sont vendues dans des pharmacies sont de mauvaise qualité, autant qu'utiliser alors les serviettes traditionnelles, c'est-à-dire les linges qu'on devrait laver avec l'eau de javel, repasser et étaler au soleil et puis repasser et réutiliser. Voilà. Mmh. Parce que là, au moins, on est sûr de contrôler. On sait que ce sont des serviettes de linge qu'on a bien nettoyées avec beaucoup de soins, avec l'eau des javelles, et on a étalé au soleil, on a repassé. Ça rassure, au fait. Moi, je crois que devant la difficulté de certifier la qualité de la bande hygiénique de la pharmacie, on peut procéder de cette façon-là.
D'accord. Nous allons accueillir un auditeur, Kachai de Kanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
Bien, nous parlons de l'hygiène menstruelle. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Avant de poser une petite question, je soumets le cas qui était arrivé ici à nos invités. Je pense qu'ils pourront émettre un avis aussi par rapport à cela. Monsieur Jody, dans une école primaire, en sixième primaire, une fille de 12 ans, pendant les heures d'enseignement, avait vu le sang couler dans ses habits. Alors, maintenant, elle ne savait pas comment gérer l'écoulement du sang, et leur enseignant, c'était un homme qui n'était pas une femme pour être attentive aux manifestations allant dans ce sens-là. Et les autres élèves, vous connaissez surtout comment les enfants là à l'école primaire se comportent vis-à-vis d'un événement
inédit auquel ils sont curieux.
Oui. Ils sont curieux, ils sont surpris, et la concernée a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Donc même le maître avait paniqué parce qu'il ne savait pas gérer l'émotion de la petite fille à l'école primaire. Alors, je ne sais pas pour madame comment une fillette de 12 ans qui voit déjà la manifestation de ces règles, elle pourra se comporter comment. Et surtout que ce n'est pas à la maison, c'est à l'école, et l'enseignant qui pouvait même l'encadrer pour que la fille ne soit pas froissée, frustrée, avait paniqué. Et l'enseignant ne savait pas maîtriser le calme des autres élèves qui se moquaient déjà à la petite fille. Ça, c'est un cas. Et bon, je ne sais pas, surtout, je profite. Dès quel âge, à quel âge, la fille peut déjà commencer à voir ses règles. N'en déplaise, monsieur Jody, en ville, je ne sais pas quelle stratégie qu'on applique pour encadrer les jeunes filles à pouvoir gérer normalement les règles. Mais au village, le cas est tellement tabou. Pourquoi? Parce que chez nous, à Kanyuka, monsieur Jody, ce sont les grands-mères qui parlent à leur petite fille. Parce que les parents, pour eux, ils ne peuvent pas parler du sexe, du corps aux enfants à la maison. Et surtout, le papa, lui, ne va pas entendre. Parce que s'il entend, c'est un tabou. Alors, maintenant, je ne sais pas. Dans ce sens-là, les filles qui n'ont pas été éduquées, encadrées d'abord par leurs parents, qui connaissent l'hygiène corporelle, pensez-vous que même à l'école, si le cours est introduit, elles pourront avoir la présence d'esprit et être lucides? Ça, c'est un. De deux, l'entretien corporel. Monsieur Jody, au village Kanyuka, c'est un constat que nous avons fait, parce que on faisait le travail du relais communautaire. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'argent pour acheter des lingettes. Les jeunes filles utilisent les morceaux de pagne, et parfois qui ne sont pas bien nettoyés et bien entretenus. Et ces morceaux de pagne-là, les créent des maladies, des infections urinaires. Et résoudre un problème, c'est créer un autre. Voilà qu'ils utilisent des morceaux de pagne, et en même temps, ces morceaux de pagne-là le crée aussi des infections. Alors, dans ce sens-là, vu le degré de la pauvreté qui gangrène la population Kanyuka, surtout au Kasaï central, je dirais, comment nous pouvons faire face à cela pour que, si nos jeunes filles commencent à avoir des manifestations corporelles, peuvent à tout moment s'en sortir? Parce que
d'accord.
La vie précaire et surtout la précarité de la vie, les parents, bon,
très
peu de parents, je pense peut-être en ville,
oui,
peuvent au moins penser à l'achat des lingettes, des linges.
Mais au village, c'est très compliqué. Merci. Merci.
Oui. Au village,
c'est très compliqué. Merci. Merci, Kachai de Kanyuka. Docteur Ghislain, vous avez la parole.
Oui, l'auditeur a posé beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de revenir sur une après l'autre. Pour le cas de l'élève à qui c'est arrivé à classe, je crois que la solution reste que les enfants soient informés assez tôt. Parce que quand les enfants sont informés, longtemps avant leur première règle, et elles savent que les règles sont un phénomène tout à fait normal, qui va arriver à la jeune fille à un certain âge, comme le jeune garçon connaît aussi ses problèmes, comme la pollution nocturne par exemple. Les deux sexes sont informés de ça. Le jour où ça arrive à la fille, les petits garçons et les autres filles ne vont pas se moquer d'elle. Ça fait partie de l'évolution normale, ça fait partie de la croissance normale, et l'enseignant qui en a parlé un jour va avoir le courage de bien gérer, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. On doit dépasser le stade où on pense que les règles, c'est une affaire des femmes. Non, c'est une affaire de l'homme et c'est une affaire de la femme. Il a évoqué le tabou qui existe au village. Le tabou doit être levé. On doit dépasser le tabou et on doit oublier ce système qui disait que c'est la grand-mère qui parle des règles à l'enfant ou c'est la tante. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des structures telles que ce soit en ville ou au village, la famille évolue loin de la grand-mère et loin de la tante. Comment cette tante va parler aux enfants ? Comment cette grand-mère va parler aux enfants? Il faut que les parents, papa et maman, se mettent dans la danse et que ce soit eux qui parlent des règles à leurs enfants pour que nos enfants ne souffrent pas de l'humiliation de leur, du jour de leur première règle, pour que les enfants ne considèrent pas les règles comme étant un problème et qu'elles les gèrent de sorte à ce que leur scolarité soit normale. Dans les recherches qui ont été faites, on a même découvert qu'il y a des filles qui ont abandonné leur scolarité parce qu'un jour elles ont vu les règles et qu'on s'est moqué d'elles.
Mmh. Alors, docteur Ghislain, vous avez un programme par rapport aux écoles. Dites, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans les écoles par rapport à l'hygiène menstruelle?
Le programme découle des recommandations que nous avons reçues des communautés dans lesquelles les recherches ont été faites. Lorsque les recherches étaient faites, on revenait présenter aux différentes communautés les résultats. Et parmi les recommandations, il y avait celle d'informer les enfants avant leur première règle. Et c'est une recommandation qui est arrivée aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, qu'en milieu périurbain, que dans les contextes d'urgence. Et pour bien intégrer cela, nous avons travaillé avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à travers sa direction des programmes d'éducation à la santé et à l'environnement. On a conçu un programme. Il existe déjà un programme. Il existe des manuels pour les élèves. Il existe un guide pour l'enseignant. Et il existe un module de formation de l'enseignant. Mais les règles étant une question qui est considérée comme tabou, et que beaucoup de personnes rattachent à la sexualité dans notre contexte, nous n'avons pas voulu aller avec ce programme dans toutes les écoles de la RTC sans savoir quels pourraient en être les effets non désirés. C'est ainsi qu'on commence dans 60 écoles pilotes qui ont intégré le programme, les enseignants sont formés, les élèves ont les manuels et le cours est en train d'être donné une semaine sur quatre dans le cadre du cours d'éducation à la santé et à l'environnement. Nous suivons le cours. Nous relevons les aspects de protection autour de cet enseignement. Nous relevons les observations des enseignants, des parents et des élèves pour une amélioration du programme. À la fin de l'année scolaire qui est en cours, nous allons nous asseoir pour analyser le programme, réfléchir sur des améliorations et proposer maintenant le programme qui va passer à l'échelle dans toute la RDC et qui sera piloté par le ministère de l'éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Bien.
En gros, voici le programme.
D'accord. Comment avoir une bonne hygiène menstruelle? Madame Joséphine, vous avez suivi l'histoire de cette petite fille de l'école primaire à Kanyuka qui a paniqué quand elle a vu le sang. Et l'enseignant aussi ne l'a pas aidée. Ses collègues, ses amis en classe se moquaient d'elle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, Madame Joséphine?
Bon, je me dis que d'abord, c'est un problème familial. Tout est parti de la maison de parents. Les parents n'ont pas eu à préparer l'enfant à aborder cette question ou bien cette étape de sa vie qui concerne l'apparition des règles. Si les parents avaient eu à préparer l'enfant, cet incident n'allait pas se produire. Qu'à cela ne tienne. Déjà à l'école primaire, on enseigne le cours de l'éducation à la vie. Et ce cours de l'éducation à la vie prépare la fille à affronter l'apparition de ses premières règles. Alors, si l'enseignant a eu à réagir de cette façon-là, je me dis que c'est un enseignant qui ne répond pas aux normes d'être vraiment enseignant Et ça pose maintenant les problèmes de recrutement des enseignants qui ne sont pas qualifiés. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau.
Est-ce que, est-ce qu'au niveau des écoles, il y a certaines écoles qui demandent, lorsque les enfants s'inscrivent, on vous dit amener les bandes hygiéniques, apporter les papiers d'éducateur, tout ça. Est-ce que c'est une bonne façon de faire, d'avoir des bandes hygiéniques à l'école au cas où une fille voit ses règles, immédiatement on peut intervenir?
Oui, je pense que c'est une bonne pratique. C'est bon. Pourquoi? Parce qu'il faut prévenir, au fait. C'est souvent dans des écoles privées que cela se passe, et pas dans des écoles publiques. Dans des écoles privées, on demande des bandes hygiéniques, on demande même des papiers hygiéniques, on demande tout ce qui est à usage par rapport à une situation qui peut se produire d'une façon non programmée. C'est comme ça que moi, j'encourage dans cette idée-là que dans les matériels constitués au niveau des écoles, qu'il y ait aussi les stocks de bandes hygiéniques, de papiers hygiéniques pour parer au plus pressé en cas de l'apparition brusque de règles. Voilà un peu. Oui. Je crois que c'est une bonne chose. Mais je reviens encore, en tant que présidente de l'ONDS, Forum de la femme ménagère, j'insiste pour que les ménages prennent en charge cette question d'éducation à la vie. Brisons les tabous, enseignons à nos enfants qu'à un certain âge, il y aura apparition des règles et que vous devez vous comporter de cette façon, de telle façon, etc., etc. Voilà un peu. Donc, nous devons vraiment faire un effort pour aller au-delà. Qu'on soit au village, qu'on soit dans des milieux urbains ou quoi, nous devons penser et mettre, intérioriser que le problème de santé n'a pas de tabou parce que parce que la gestion des conséquences est encore pire que de traiter cette question dans la prévention par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'information à partager, et allons au-delà de nos tabous pour sauver nos vies et la santé de nos enfants par rapport à cette question de la menstrualité, parce que la menstrualité pose des problèmes de stérilité et d'autres infections plus tard qui entrent dans la destruction de la santé de la reproduction de la femme.
Bien, Madame Joséphine, si une fille, par exemple, qui voit qui a ses règles, elle a ses bandes hygiéniques à l'école, elle veut se changer, mais les toilettes de l'école ne sont pas propres, il n'y a pas assez d'eau, qu'est-ce qu'elle peut faire à ce moment-là?
Oui, quand il n'y a pas assez d'eau, on peut utiliser les papiers hygiéniques pour s'essuyer et remettre une autre bande hygiénique à la place de celle qui est déjà utilisée. Voilà un peu, donc on doit s'adapter à la circonstance. C'est-à-dire, si on s'adapte à la circonstance, on ne va pas se dire non parce qu'il n'y a pas d'eau, on reste avec la bande hygiénique sale ou quoi. Non, il y a des papiers hygiéniques, des papiers mouchoirs qu'on peut utiliser pour essayer de s'essuyer. Et maintenant, se changer, prendre la bande hygiénique qui est déjà utilisée, l'envelopper dans le papier hygiénique, et aller jeter dans la poubelle qui est à l'école. Voilà un peu, donc, en cas d'absence d'eau. Donc, ce n'est pas une raison pour ne pas être propre quand on a ces menstruations.
D'accord. Merci, Madame Joséphine Galula. Je rappelle que vous êtes présidente du Forum de la femme ménagère. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci, monsieur le journaliste.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Comment avoir une bonne hygiène menstruelle? Comme je l'ai dit au début de cette émission, l'UNICEF, au travers de son programme Uripot, a lancé un sondage là-dessus, et les résultats de ce sondage, nous les avons. Vous pouvez aussi aller sur la page Uripot de l'UNICEF pour retrouver ces résultats. Alors, par rapport à la question, comment te débarrasses-tu des matériaux utilisés? 31% on dit je brûle, 8% j'enterre, 8% je jette à la poubelle, 53% je jette dans la toilette. Docteur Juslin, votre réaction par rapport à cela?
Il reste toujours un problème sérieux d'infrastructure dans nos milieux et lorsque nous avons fait les recherches, les élèves disent qu'elles s'absentent aussi parce qu'il n'y a pas d'infrastructure appropriée dans les écoles et elles ne savent pas comment se changer parce qu'il n'y a pas d'espace. Et quand on parle d'infrastructure, on voit aussi la question de la gestion des déchets. 31% brûlent, c'est une bonne pratique. Ceux qui enterrent, il faut bien questionner jusqu'à quel niveau ils enterrent, parce qu'enterrer superficiellement, ça devient un risque pour le reste de la communauté. Ceux qui jettent à la poubelle, il faut que ce soit une poubelle couverte et que tout ce qui viendra de cette poubelle-là soit par la suite incinéré ou enterré correctement. Il y a 53% qui jettent à la toilette, ça c'est un problème, parce que ça dépend du type de toilette. Si c'est une toilette à fosse, ça peut être acceptable si la fosse est assez profonde. Mais si ce n'est pas une toilette à fosse et que c'est une toilette avec chasse d'eau, c'est un problème parce que les serviettes hygiéniques bouchent les toilettes très fréquemment. Et ça va poser un problème, il faut toujours revoir la toilette, il faut la déboucher. Mmh. Ça montre encore qu'il y a un travail à faire dans la sensibilisation de nos filles et des femmes âgées qui peuvent avoir ce genre de pratiques. Et ce travail reste énorme, il faut le continuer au niveau des écoles et même en dehors des écoles.
Bien, on va accueillir Isidore Bamanaï, il est éducateur à la vie, il intervient depuis Mbujimaï. Isidore Bamanaï, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi et aux autres intervenants.
Nous parlons aujourd'hui de l'hygiène menstruelle. Comment maintenir une bonne hygiène menstruelle, surtout pour les enfants à l'école? On a remarqué qu'il y a encore beaucoup de tabous, les parents n'en parlent pas assez à leurs enfants, aux filles, et les filles ne posent pas trop de questions et s'informent auprès des amis. Alors, en tant qu'éducateur à la vie, qu'est-ce qui devait être fait pour aider les jeunes filles à maintenir une bonne hygiène menstruelle?
Oui, merci beaucoup, Jody, pour l'invitation et pour la question. Si vous limitez la question à l'école, je crois que vous êtes en train de restreindre les cercles. Tous les enfants ont droit à l'information sur l'évolution du corps. Et même celles qui vont à l'école, même celles qui ne vont pas à l'école. Donc, s'il faut parler de l'hygiène, permettez-moi de commencer par l'hygiène mentale. L'hygiène mentale, c'est que la fille qui a 9 ans, qui a 10 ans, les parents, en premier lieu les parents, en second lieu peut-être les éducateurs à l'école, devront la préparer à recevoir le phénomène qui va y arriver sans beaucoup de stress. Parce que quand ce phénomène-là arrive pour la première fois et qu'on n'est pas informé, on risque de s'ébranler, on risque de se poser mille et une questions et on risque de croire à n'importe quoi. Donc, il faut que la fille soit préparée de telle manière qu'elle accepte le phénomène qui va lui arriver. Et si elle accepte, elle va évoluer correctement jusqu'à l'âge adulte. Parce que parfois, même dans certaines églises, on va dire aux gens que le sang qui sort, le sang des règles, est une impureté. Et alors, ça fait que la femme qui entend ça, elle n'est pas très à l'aise dans son corps quand elle aura les menstrues à l'âge qu'il doit en avoir. Mmh. La deuxième hygiène, c'est la prévention. Comment gérer son corps? Parce qu'en même temps que la fille connaît les règles, elle connaît aussi notre transformation sur le plan émotionnel. Elle commence à s'intéresser à la personne de sexe opposé de manière particulière. Et à cette époque, il y a beaucoup de choses que les jeunes gens se racontent et qui sont fausses. Il y a des filles qui se racontent qu'il faut prendre telle plante, telle autre plante, telle feuille pour ne pas avoir ceci et pour ne pas avoir cela. C'est une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas bonne. Surtout les jeunes garçons, ils vont tromper les filles qu'à cet âge-là, il faut à tout prix avoir des rapports sexuels pour ne pas tomber fluide ou pour ne pas devenir stérile. C'est une prévention à prendre aussi, parce qu'en ce moment-là, il y a à traiter la personne de sexe opposé, et s'il y a cette sollicitation, si la fille n'est pas armé pour pouvoir résister, pour exercer la maîtrise de soi et le risque de tomber, avec tous les dangers que cela
représente. Oui.
Ouais. Et maintenant, c'est l'hygiène corporelle. Bon, la fille à la maison, je crois que ce sont les parents les premiers à l'encadrer. On devra lui apprendre à se lever, à se laver régulièrement. Au moins deux fois par jour, matin et soir. Mais si elle connaît des règles abondantes, elle devra aussi se laver une troisième fois pendant la journée, si elle doit se changer, comme Madame Alphonsine l'a dit tout à l'heure, là, si elle doit se changer, il faudra alors qu'elle trouve de l'eau propre pour se laver, avec du savon. Elle doit porter les bandes hygiéniques. Les bandes hygiéniques, ce ne sont pas des morceaux d'étoffe, de paille, ce ne sont pas des morceaux de branches, de chemises, de parents, c'est uniquement les bandes hygiéniques. Et les bandes hygiéniques, nous en avons à usage unique et nous avons à usage continuel.
Bon, les invités ont dit tout à l'heure que si dans un milieu il n'y a pas de bandes hygiéniques, on peut utiliser des morceaux d'étoffe bien lavés, bien préparés, bien lavés, bien repassés, qu'on peut réutiliser la fois prochaine.
Ah, mais attention, ce n'est pas n'importe quelle étoffe. Il faudra que ce soit un tissu capable d'absorber le sang et capable de ne pas gêner la petite fille. Parce que si elle porte un morceau de paille qui glisse, elle va se gêner. Et à ce moment-là, elle va commencer petit à petit à ne pas aimer qu'elle ait les règles. Et quand on n'aime pas qu'on ait les règles, on a des problèmes sur le plan sanitaire. Donc ce morceau d'étoffe, on appelle ça flanelle, qu'on peut acheter, préparer pour la fille, comme ça quand elle l'utilise, elle peut laver proprement, sécher au soleil, repasser, et porter pour une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ce n'est pas le pagne de maman. Les pagnes de maman ne sont pas vraiment indiquées.
D'accord.
J'ai lu ça du médecin gynécologue. Il dit que les pagnes de maman, ce n'est pas indiqué. Ça glisse entre les jambes de la fille et ça risque de la mettre mal à l'aise. Et ça n'absorbe pas suffisamment le sang. Le sang risque de détacher les habits.
Les habits, oui. Il y a risque d'avoir des fuites.
Oui, il risque d'avoir des fuites. Et en ce moment-là, si elle est assise quelque part et qu'elle se lève, on va voir des taches de sang. Mais écoutez, si elle est habillée en jupe blanche ou en pantalon blanc, je crois que...
C'est la catastrophe.
C'est la catastrophe. Elle aura honte parmi ces gens-là. Et elle va se dire que c'est dur d'être une femme. Donc, ce morceau doit être un tissu bien choisi qui peut absorber le sang et que l'on peut laver facilement pour être réutilisé.
Voilà. Docteur Ghislain Moukouna, la dernière question du sondage YouReport de l'UNICEF sur l'hygiène menstruelle est de savoir quelles difficultés as-tu pendant tes règles. 6% pas d'eau, 7% pas des matériaux, 5% pas des toilettes pour les filles, 44% les douleurs, 6% acheter des matériaux discrètement et 31% manque d'argent. Votre réaction par rapport à ces réponses, docteur?
Les réponses confirment encore une fois les résultats de nos recherches. J'aborde d'abord la question du manque d'argent. On avait remarqué que les moyens financiers étaient un déterminant important de la gestion de l'hygiène menstruelle. À côté des moyens financiers, il y a aussi le niveau d'instruction des parents qui était un déterminant important. Pour les autres facteurs, la douleur, oui, la douleur est un des cinq facteurs qui font que les filles s'absentent de l'école pendant leurs règles. Je vais rappeler les cinq facteurs. Le premier, c'est le manque de connaissances suffisantes. Le deuxième, c'est le fait de manquer d'infrastructures à l'école. Le troisième, c'est le fait de ne pas avoir un absorbant approprié. Et sur ce, je remercie le dernier intervenant qui a donné des très bonnes informations quand il a parlé des absorbants. Le quatrième facteur, c'est toute l'humiliation que les filles ont peur d'affronter dans le milieu scolaire qui fait des règles un problème à l'école. Et le dernier facteur, c'est justement la douleur. On a vu qu'elles ont évoqué à 44% la douleur comme étant une des difficultés qu'elles ont pendant les règles. Et c'est un facteur qui amène nos filles et nos femmes à rester à la maison sans aller à l'école ou sans aller au travail pendant leurs règles. Ces résultats reflètent la réalité de ce que nous vivons dans la communauté et de ce qui a été découvert pendant les recherches que nous avons menées dans 4 contextes différents de la RDC.
Alors pour terminer, docteur, qu'est-ce qu'on doit retenir pour avoir une bonne hygiène menstruelle?
Ce qu'on doit retenir pour avoir une bonne hygiène menstruelle, c'est qu'on doit combattre les différents facteurs d'abord qui font que l'hygiène menstruelle ne soit pas bonne. On doit se rappeler que pour une bonne hygiène menstruelle, il faut avoir les bonnes connaissances sur l'hygiène menstruelle. L'effort est en cours, il ne va pas se limiter à l'école, il va aller aussi dans les communautés, il va aller dans différents contextes. CRS, nous espérons continuer avec l'UNICEF dans cet effort pour sortir de l'école et faire aussi, en dehors de l'école, des efforts pour une bonne hygiène menstruelle. Il faut que tous nous ayons les caractéristiques des bonnes infrastructures. Un travail se fait là-dessus pour donner les caractéristiques des bonnes infrastructures qui répondent aux besoins de la fille et de la femme pendant ces règles. Il faut que les filles et les femmes aient l'information sur comment gérer les douleurs des règles. La première possibilité est de se présenter devant des prestataires de soins de santé pour avoir des réponses, mais il y a quelques moyens physiques simples que les gens peuvent utiliser chez eux à la maison et qui peuvent réduire la douleur des règles et leur permettre d'aller à l'école pendant les règles ou d'être à leur poste de travail pendant les règles. Ça permet à la femme d'être plus à l'aise et ça contribue à l'autonomisation et au bien-être de la femme en général.
Docteur Gisela Mukuna du CRS, de Catholic Relief Service, merci et à la prochaine.
Je vous remercie aussi.
Voilà. Nous rappelons que le prochain sondage de l'UNICEF, YouReport, va porter sur la santé mentale. Tout le monde peut participer à ce sondage, surtout les jeunes, parce que c'est destiné aux jeunes. Il suffit d'envoyer Go par SMS au 101 pour vous inscrire. Isidore Bamanaï, on va clôturer également avec vous. Vous êtes éducateur à la vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour avoir une bonne hygiène menstruelle? Ah, on me fait signe qu'il n'est plus en ligne, voilà. On clôture ces sujets par ici. Pour participer au prochain sondage de YouReport de l'UNICEF, je l'ai dit tout à l'heure, envoyez Go par SMS au 101. Vous écoutez Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Alors, tout à l'heure, nous allons suivre les informations et ensuite, on va se retrouver dans la deuxième partie de ce programme. Nous allons parler de la taxe RAM, les revendications sur la taxe RAM. Quelles sont les voies de recours? De nombreuses personnes ne sont pas du tout d'accord avec le mode de prélèvement de cette taxe RAM sur les appareils mobiles. On en parle dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien. Okapi Service.